01 45 24 7000 pour interpeller, interroger ou donner un point de vue face au cinéaste Raoul Peck, l'auteur de ce documentaire I Am Not Your Negro dont on parle depuis 8h20, un documentaire que vous avez projeté en février à Aubervilliers, dans une banlieue où il a forcément été question de racisme, de discrimination, Raoul Peck.
Oui, c'était une initiative personnelle et improvisée parce que j'ai appris la nouvelle de cet incident où du jeune Théo.
Bien sûr.
Et je pense que j'étais à Berlin à l'époque au festival et j'ai eu envie d'avoir une rencontre avec ces jeunes qui quelque part qu'on a un peu laissé tout seul sur le bord de la route et j'avais envie de leur donner simplement une plateforme pour parler et être présent. Et donc on a organisé en l'espace de 3 jours, j'ai projeté le film et bien entendu le film a ouvert toutes sortes de discussions et puis surtout ils se sont sentis représentés et Baldwin est très fort là-dessus parce qu'il vous dit il faut pas laisser les autres vous définir, c'est à vous de définir qui vous êtes et surtout qui vous avez envie d'être. Et cet appel de courage, je pense, était nécessaire dans le moment et leur donner une dimension qui soit justement pas simplement raciale, mais surtout qui se considère comme des êtres humains à part entière et qu'ils commencent à penser leur vie de cette façon-là.
Jusqu'où, à votre avis, Raoul Peck, peut-on pousser le parallèle entre le racisme anti-noir aux États-Unis et les discriminations dont peuvent être victimes les Maghrébins, les Arabes en France?
Baldwin le fait très bien parce que au final, il ne parle pas vraiment de race puisque la notion de race elle-même est une construction idéologique. Les scientifiques vous diront que les races en tant que telles n'existent pas. Il existe le genre humain. Donc nous faisons partie de cette même famille et Baldwin nous le rappelle. Donc les problèmes qu'on confronte en ce moment aux États-Unis et qu'on a confronté pendant le mouvement des droits civiques est quelque part le même aussi parce qu'il s'agit de comment reconnaître l'autre, quelle empathie qu'on montre vis-à-vis de l'autre. Et dans l'histoire des sociétés humaines, d'ailleurs, l'autre a été parfois le juif, il a été l'arabe, il a été l'asiatique. Donc c'est le politique. Baldwin nous dit une chose très importante, il dit « le blanc est une métaphore pour le pouvoir ». Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une société actuel, basé par exemple sur le capitalisme qui nous amène la globalisation, etc. Et le vrai débat, c'est là. C'est pas un débat sur les races, sur l'identité, sur le communautarisme. Si les richesses étaient réparties différemment dans ce pays, par exemple, les débats seraient totalement différents. On se concentrerait pas sur des détails qui deviennent polémiques et en fait, au final, qui ne veulent plus rien du tout, qui ne veulent rien dire du tout, puisque la semaine d'après, on aura changé le sujet de cette polémique.
Je comprends. Un débat sur les inégalités. Mais si aux États-Unis, j'y reviens, la police est majoritairement blanche et si la plupart des victimes des violences policières sont noires, c'est une question simplement de sociale, une question d'inégalité.
Ces questions-là sont liées. C'est vrai que les États-Unis ont une histoire particulière de violence. Je rappelle que c'est un pays qui s'est quand même construit sur deux génocides, le génocide des Indiens et puis le génocide qui a été l'esclavage. Et cette histoire n'a jamais été totalement digérée. On est passé dessus. Et donc il y a une violence qui est dans l'histoire même de l'Amérique, on a lynché des gens il y a encore 60 ans. Donc c'est une réalité. Et la police, qui est devenue le bras armé de cette répression, qui est censée garder certaines couches de la population dans leur ghetto, dans leur petit enclos, c'est pas pour rien que les prisons sont devenues une industrie aux États-Unis. Et c'est vrai, la forme de cette répression aveugle policière est le meilleur indicatif, si vous voulez, de cette violence-là.
C'est la question la plus aiguë aujourd'hui aux États-Unis, celle des violences policières d'un point de vue du point de vue de la question noire.
Non, je pense que je dirais plutôt c'est la violence économique surtout. Il faut pas oublier qu'on sort en 2008 d'une crise de subprime où un grand nombre de gens ont perdu leur maison, ont perdu tous leurs biens et vivent aujourd'hui encore dans une situation qui est simplement intolérable dans le pays le plus riche du monde.
Denis au Standard Inter, Denis qui nous appelle des Hauts-de-France, bonjour.
Oui, bonjour. Donc ma question, enfin, dans un premier temps, c'est une réflexion. Effectivement, Baldwin dresse le diagnostic d'une apathie morale et même d'une mort émotionnelle des États-Unis. Alors, le paradoxe, les États-Unis ont élu un président noir durant deux mandats. On aurait pu espérer que, sous l'autorité d'Obama, les discriminations puissent évoluer dans le bon sens. Et les chiffres montrent tout à fait l'inverse. Effectivement, 60% des victimes des subprimes aux États-Unis sont des Noirs. Plus de 60% des 2,5 millions d'Américains détenus sont des Noirs, pratiquement. Et concernant les victimes des policiers noirs, alors là, les chiffres dépassent tout entendement. Près de 1500 morts. Attendez, je reprends les chiffres. Mais parmi les victimes, 41% étaient noirs, donc, alors que cette catégorie ne représente que 13% de la population américaine. Alors, l'interrogation, malgré le deux mandats d'un président noir, la société américaine n'a absolument pas évolué.
Merci Denis pour cette réflexion, Raoul Peck.
Ben, c'est exactement cette fixation sur le sauveur, celui qui va résoudre tous les problèmes. Encore une fois, on le voit à ces élections ici en France. Les problèmes sont des problèmes de société qui ne peuvent pas être résolus par une femme ou un homme. Et aux États-Unis, pour reprendre la phrase que j'ai dit tout à l'heure, Baldwin nous dit c'est pas le problème, c'est pas quel sera le prochain président noir. Le vrai problème, c'est de quel pays sera-t-il le président. Donc il faut toujours parler du pays, des conditions dans ce pays, des rapports de force dans ce pays et surtout des inégalités économiques et autres dans ce pays.
Bernard Guetta.
Mais est-ce que ce pays, quand même, les États-Unis, n'a pas profondément évolué? Parce qu'il reste un fait majeur. C'est que les États-Unis ont élu un président noir deux fois de suite. Or, cela, il y a 15 ans, 20 ans, ne parlons pas de 50 ans, c'était pas seulement impossible, c'était proprement inconcevable.
Disons qu'il a brisé un tabou, certes, il a montré une autre image.
C'est pas lui, c'est la société qui a changé, c'est la société qui l'a élu.
Mais c'est la même société qui a élu Trump.
Bien sûr,
donc,
bien sûr.
Voilà. Mais... donc c'est la société qui nous produit tel type ou non de président. Et les problèmes restent les mêmes. Encore une fois, je suis noir, donc ce symbole d'avoir un président noir à la Maison-Blanche a été très fort. Nous avons tous pleuré. D'ailleurs, pas que les noirs qui ont pleuré, les blancs ont pleuré dans la rue, tout le monde. Ici en France, mes amis étaient, bien entendu, extrêmement heureux de ça. Simplement, une fois ce mandat passé, on se rend compte qu'on se retrouve devant un certain nombre de problèmes.
Bien sûr.
Donc, et c'est là. N'oubliez pas que le résultat des droits civiques, bien sûr, a produit des lois, a produit des grands changements importants, mais quand on analyse les chiffres, comme a fait cet auditeur, les chiffres aussi disent une vérité.
Voilà, mais le vote dit une réalité, les chiffres en disent une autre, et ces deux réalités, excusez-moi, existent.
Absolument. Ouais. Et il ne s'agit pas de prendre l'une pour l'autre, mais il reste, bon, j'ai une formation marxiste, l'économie reste quand même au centre de tout ça. C'est ça le grand éléphant au milieu de la pièce, ici aussi pour revenir à la France, puisque on est en France. Quand on parle, je regardais le débat autour de Whirlpool hier, mais on parle de la délocalisation, etc., mais il n'y a jamais l'un des responsables à Whirlpool devant le micro, en face de vous, qui répond à vos questions. Et c'est là le scandale.
Il ne parle pas.
Qu'on vienne expliquer pourquoi la nécessité de cette délocalisation quand cette industrie fait 800 millions de bénéfices. C'est ça les vraies questions.
L'usine française est, semble-t-il, déficitaire, mais le groupe, évidemment, fait des profits considérables.
Voilà.
Donc, il y avait un directeur de l'usine qui s'est battu pendant longtemps pour défendre l'implantation de l'usine Whirlpool à Amiens. Il a été changé, et juste après, effectivement, le groupe a annoncé la délocalisation en Pologne. Vous avez raison de rappeler cette histoire.
C'est ça, quand on prend des décisions qui sont strictement économiques, ça a des incidences sur la vie des gens. Et c'est ça qui devrait être au centre, la vie des gens. Et c'est ce que oublie très souvent le politique, et ceux qui ne l'oublient pas sont dans une situation où ils ne peuvent pas dire cette vérité. parce qu'il faut penser à ce mandat qui dure 5 ans, ou même moins pour certains, et c'est ça l'objectif. Si on le dit, on n'est pas élu. Et c'est ça cette contradiction qu'on transporte élection après élection.
Le débat politique en France, à votre avis, Raoul Peck,
c'est largement appauvri, mais pas seulement en France. Écoutez, dans mon pays, on a eu un chanteur qui est devenu président. En Amérique, on a Trump qui est devenu président. En Italie, on a eu Berlusconi. On se rend pas compte ce qui se passe actuellement dans toutes les démocraties. Même Poutine peut dire il est un démocrate. On en est là. Et cette discussion, on ne l'a pas non plus.
Donc, il y a un abaissement général de la politique. Avant d'accueillir Augustin Trapenard, un petit mot de l'actualité, puisque nous parlons du débat français. J'ai l'honneur de vous annoncer que le Front National vient à nouveau de changer de président pour la deuxième fois en une semaine, puisque à l'instant, on nous annonce que Steve Briouat assumera la présidence du Front National. Jean-François Jalques avait été désigné il y a quelques jours pour remplacer Marine Le Pen qui s'était mis en congé du parti, mais Jean-François Jalques a été rattrapé par des propos, semble-t-il, négationnistes qu'il a tenus il y a quelques années. Florian Philippot, qui était à votre place hier matin ici même, disait que pas du tout, tout ça c'était des bobards et qu'il n'y avait rien de... Voilà, il a quand même... Jalques a été débarqué 24 heures plus tard, et donc c'est Steve Briouat qui le remplace, annonce faite il y a quelques minutes par Louis Alliot, autre vice-président du Front National. Bon, on va y revenir à 9h évidemment. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité,
oui,
Raoul
bonjour
Peck.
Raoul Peck. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui me frappe aussi dans votre cinéma, c'est la voix de l'écrivain que vous convoquez toujours. James Baldwin, on en a parlé pour I Am Not Your Negro, mais aussi je pense à Lionel Trouillot dans le passé. Je crois qu'il y a des projets avec Russell Banks, l'écrivain américain aussi. Qu'apporte la voix du romancier, du poète, de l'écrivain dans votre appréhension du cinéma et du monde? Qu'est-ce que vous allez chercher chez eux, somme toute?
Baldwin en particulier, j'ai connu Baldwin, ses livres, très tôt dans ma vie, j'avais 18 ans, et il a changé ma vie, il m'a structuré, il m'a appris à être qui je suis, à me définir moi-même, et il m'a aidé tout le long de ma vie. Donc, pour moi, dans un monde de confusion comme nous le vivons actuellement, ramener la voix de Baldwin sur le devant de la scène, c'était une obligation, en souhaitant qu'il pourra accomplir la même chose qu'il a accompli pour moi, c'est d'amener de la structure, de l'imagination, et puis de pouvoir avoir une analyse de son monde plus percutante. Oui, les écrivains, c'est leur travail aussi d'avoir un recul, ce qu'on n'a pas suffisamment, puisqu'on a un monde qui est très rapide, on n'a plus le temps de penser, et prendre un livre, c'est quelque chose qui, quelque part, vous pacifie, vous donne un peu plus d'espace pour penser, et peut-être prendre de meilleures décisions pour sa vie.
Votre invité dans Boomerang, Augustin Trapenard, ne serait-il pas une sorte de cousin de Raoul Peck ou de James Baldwin?
Je sais pas. Vous savez, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis et dans le département de littérature de l'université dans laquelle j'étais, le grand écrivain de langue française qu'on citait, c'était pas Flaubert, Sartre ou Houellebecq, c'était lui, Patrick Chamoiseau, l'auteur de Texaco, prix Goncourt en 92, qui publie un manifeste poétique dédié à l'étranger, aux étrangers, somptueux plaidoyer, hein, non pour un vivre ensemble, mais pour un vivre monde. Patrick Chamoiseau est dans Boomerang, évidemment.
Raoul Peck, c'est pas tous les jours qu'on a deux Caribéens comme ça invités à la suite sur France Inter.
Et Patrick Chamoiseau, que je connais et qui est un grand ami, enfin quelqu'un que j'ai rencontré souvent. Mais c'est un excellent exemple, Patrick Chamoiseau, prix Goncourt. Il est invité partout en Amérique. Ce sont des écrivains caribéens et africains qui défendent la littérature française aux États-Unis, et on ne leur donne pas de place en France. On n'a jamais offert une grande chaire à l'université à Patrick Chamoiseau, après son. Et on s'étonne justement que ces gens partent ailleurs.
Eh ben,
gageons qu'après Boumang,
il aura une chaire. On lui posera la question tout à l'heure. Mais on est très honoré de l'accueillir, en tout cas tout à l'heure.